Mes chers amis, aujourd'hui, 1er mai, je vais vous parler de Saint-Amâtre. Nous sommes au IVe siècle, à Auxerre. L'évêque du lieu, un certain Valère ou Valérien, on ne sait pas, rencontrait souvent de très riches et puissants marchands. Proclidius et son épouse Isicole, au train de vie fastueux. Ce couple n'eut qu'un unique enfant, Amâtre. Seul héritier d'une immense fortune, Amâtre reçut une éducation très soignée, car normalement, il était promis à un destin exceptionnel. En conséquence, Amâtre devint un jeune homme très mondain et très recherché. Cependant, ses parents étaient aussi profondément chrétiens. Amâtre menait une vie vertueuse. Cela n'empêchait pas que, riche et vertueux, notre jeune Amâtre attirait les familles nanties qui se manifestaient auprès des parents Proclidius afin d'assurer à leur fille, s'ils en avaient une, un avenir très enviable. Bientôt, Monsieur Proclidius décida de marier son fils avec une jeune femme originaire de Langres, Marthe, appartenant à un milieu comparable à celui d'Amâtre. Quand le mariage fut décidé, Marthe quitta Langres et vint habiter Auxerre dans la famille d'Amâtre. Mais Marthe, qui était aussi très chrétienne, vécut pendant plusieurs mois très chastement dans la famille Proclidius, ses futurs beaux-parents, en attendant le grand jour du mariage. La date des noces fut enfin fixée. Elles furent somptueuses, ce qui n'empêcha pas les parents Proclidius de distribuer généreusement des oboles et des cadeaux à tous les Auxerrois dans le besoin. Après les cérémonies et les réjouissances nuptiales, les jeunes mariés qui avaient été unis par l'évêque Valérien voulurent se réunir dans leur chambre nuptiale. Mais rien ne se passa comme ils l'avaient prévu. Nos jeunes mariés, Marthe et Amâtre, arrivent dans leur chambre nuptiale et la découvrent occupée par leurs parents et l'évêque Valérien. En effet, ces personnes avaient décidé d'offrir à leurs jeunes mariés, juste avant leur première union, une bénédiction donnée par l'évêque qui avait pensé très secrètement que ces jeunes devaient vouer leur vie à Dieu. Pour sauver la chasteté des jeunes époux, Valérien les attendait devant le lit, souriant mais décidé. Toute la famille était ravie. L'évêque s'approcha des jeunes agenouillés, les aspargea d'eau bénite et commença son oraison. Puis il leur murmura des paroles que seuls purent entendre. Et l'évêque Valérien se releva, épanoui, sa mission accomplie. Marthe et Amâtre avaient tout compris. Leur mariage ne fut jamais consommé. Bientôt la population découvrit avec stupeur que les jeunes mariés étaient encore vierges et qu'ils entendaient le rester. Dès lors, la famille d'Amâtre dépensa des fortunes pour soulager en secret les misères des gens qu'ils connaissaient. 10 années passèrent et l'évêque Valérien mourut. Amâtre et Marthe allèrent consulter son successeur, Hélade, qui estima que leur vie commune était une permanente tentation. Il convainquit Amâtre de quitter sa femme et de devenir chanoine. Quoique marié, mais puisqu'il avait scrupuleusement respecté la chasteté, on l'ordonna bientôt prêtre. Quant à Marthe, Monseigneur Hélade lui accorda le privilège d'entrer à l'abbaye Saint-Julien. 20 autres années passèrent. Amâtre n'avait pas oublié Marthe, son épouse devant Dieu. De son côté, Marthe pensait souvent à lui. Cependant, Amâtre, en raison de sa vie vertueuse, ayant acquis une réputation de sainteté, fut élu évêque d'Auxerre par les fidèles en 386 ou 388, après la mort d'Hélade. Dès lors, Amâtre, évêque, chercha à développer le culte des saints. De plus, il voulait achever dans la région l'œuvre de christianisation afin d'établir partout la foi catholique dans son diocèse. Pour cela, il devait éradiquer les superstitions locales qui subsistaient encore. Voici un exemple parlant. Germain d'Auxerre, gouverneur de la région au nom de l'Empire romain, avait l'habitude, lorsqu'il chassait, d'exposer ses prises en suspendant les têtes des animaux qu'il avait tués sur les branches d'un grand poirier, selon les habitudes païennes. Amâtre fit abattre cet arbre. Germain, furieux, menaça de mort notre amâtre, qui dut se réfugier à Autun, où il fut reçu par le préfet gallo-romain Jules et par l'évêque du lieu. Pendant son séjour à Autun, Amâtre reçut une révélation. Germain d'Auxerre, qu'il fuyait, deviendrait son successeur, parfait serviteur de Dieu. Monseigneur Amâtre demanda une audience au préfet pour qu'il lui accordât le droit de donner le diaconat à Germain. Il dit au préfet « Dieu m'a fait la grâce de m'apprendre le jour de ma mort, et comme personne n'est plus propre à gouverner mon église que l'illustrissime Germain, selon que le Seigneur a daigné me le révéler, je vous prie de m'accorder la permission de le tonsurer. » Le préfet lui répondit « Quoiqu'il soit utile et même nécessaire à notre République, cependant, puisque le Seigneur se l'est choisi, ainsi que votre béatitude me l'assure, je vous déclare que je ne puis aller contre l'ordre du Dieu. » Et le préfet accepta qu'Amâtre ordonna diacre Germain d'Auxerre, qui se serait converti vers l'an 410. Et c'est ainsi que Monseigneur Amâtre arracha Germain d'Auxerre à la débauche et à la violence, le préparant à devenir le grand saint d'Auxerre. Notons ici qu'à partir du 1er janvier 406, commencèrent les invasions barbares. Aussi, pendant l'épiscopat d'Amâtre, les fidèles devinrent de plus en plus nombreux, si bien que l'église de la ville, Saint-Pèlerin, devint trop petite. Alors Amâtre fit construire la première cathédrale d'Auxerre, sur les fondations de laquelle se dresse aujourd'hui la cathédrale actuelle. Son inauguration fut une fête éblouissante où se pressèrent tous les habitants de la ville et des environs, sauf les religieuses, cloîtrées de l'abbaye Saint-Julien, où Marthe, qui agonisait, mourut quelques jours plus tard. Après la mort de Marthe, celui que l'on appelait déjà saint Amâtre vécut encore longtemps, attentif à toutes les misères de son peuple et multipliant les miracles et les guérisons. Sentant sa fin venir, il rassembla ses clercs et une grande foule de fidèles, parmi lesquels se trouvait Germain. Amâtre fit sortir Germain d'Iran, il le bénit et déclara qu'il serait son successeur. Peu de jours après, Amâtre tomba malade. Il se fit transporter dans la cathédrale sur son siège épiscopal et il mourut là, entre les mains des porteurs. C'était le 1er mai 418. Son corps fut inhumé sur le mont Autricus, dans l'oratoire où reposait déjà Marthe. Cette église prit bientôt le nom de celui qui l'avait fait construire. La légende raconte que l'on vit aussitôt un cœur de bienheureux descendre dans l'église en chantant des hymnes et des cantiques, puis conduire au ciel l'âme d'Amâtre. Le clergé et les fidèles, qui étaient réunis autour du Saint-Évêque, entonnèrent à leur tour le chant des psaumes.